Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de recevoir au micro de Canal Académie Yann Le Bouec. Yann Le Bouec, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes spécialiste de l'Antiquité romaine, professeur à Paris 4 Sorbonne. Vous avez publié de nombreux ouvrages sur l'histoire militaire de Rome, dont un de vos ouvrages d'ailleurs a été couronné par l'Académie française, l'armée romaine sous le Bas-Empire. Vous êtes également spécialiste de César, puisque vous avez écrit plusieurs ouvrages sur ce personnage. Et vous venez de publier aux éditions du Rocher, dans la collection L'art de la guerre, l'armée romaine dans la tourmente. Alors que l'on situe immédiatement l'époque de votre propos, il s'agit de la crise du IIIe siècle. Donc nous ne parlons pas de la chute de l'Empire romain, mais de cette crise qui eut lieu un petit peu après les Sévères.
Juste après les Sévères.
Alors, avant d'entrer dans le vif de ce sujet, la première remarque que l'on se fait en lisant votre ouvrage, c'est que, au même titre que les temps médiévaux, eh bien, l'époque romaine vit des évolutions, des crises, des renaissances soumises à la fois à des éléments de dissociation intérieure, mais aussi extérieure. Il est difficile, il faut maintenir une politique pour maintenir cet empire.
Permettez-moi d'abord de vous remercier de m'avoir invité à parler ici. Et je réponds tout de suite à votre question. Effectivement, la période romaine a duré un millénaire, à peu près, environ. Encore qu'on ne sait jamais bien quand elle commence et quand elle finit. Il y a des débats infinis sur ce sujet. Mais évidemment, sur 1000 ans, il y a nécessairement des périodes d'essor, des périodes de crise, de récession, et toute récession est suivie souvent par une renaissance.
Alors, autre remarque qui me semble capitale et qui est assez étonnante dans votre ouvrage, il existe des batailles historiographiques, il y a des différences d'interprétation des textes, et la rareté des sources n'empêche pas, bien évidemment, ces batailles. Vous avez très nettement pris, à travers cet ouvrage, une position historiographique qui se démarque d'une autre position historiographique.
Oui, je crois que je vais me faire quelques ennemis supplémentaires avec ce livre. Alors, je plaisante, ce sont des ennemis scientifiques, des gens qui ne se sont pas d'accord avec moi. En effet, je pense que la tendance actuelle est excessive. C'est une tendance à limiter l'ampleur de cette crise du IIIe siècle, même chez certains historiens, qui sont d'ailleurs mes amis, Karl Strobel, l'allemand, à dire qu'il n'y a pas eu de crise du tout, sauf dans l'esprit des chrétiens et des juifs, parce que lesquels ces deux groupes étaient un petit peu persécutés dans l'Empire. Or, je crois qu'il y a eu une crise profonde. Et cette crise, on peut la voir par deux caractéristiques au moins. D'une part, il y a des batailles perdues, des guerres perdues, et des grandes batailles. Quand l'empereur est tué au combat ou capturé par l'ennemi, on ne peut pas dire que ce soit une défaite mineure, secondaire ou légère. Et d'autre part, il y a, je crois que ce qui est extrêmement important aussi, il y a une crise économique qui est très grave et qui est liée à une crise des finances publiques.
Alors nous allons revenir plus en détail sur à la fois cette crise économique et cette crise militaire. Mais d'un point de vue plus général, ce qui est étonnant, c'est que dès les premières lignes de votre ouvrage, vous écrivez « L'histoire que nous allons raconter se présente comme une véritable enquête policière » et effectivement, vous posez chacun des protagonistes. Et la question est de savoir ce qu'il s'est passé exactement. Et vous écrivez, les historiens les plus récents, à une exception près, un jeune chercheur espagnol, eh bien, ne se sont jamais posé la question du comment.
Oui, parce que c'est très simple à comprendre, c'est que la documentation dont nous disposons pour ce IIIe siècle est très mince. Nous avons très peu de textes, nous n'avons pratiquement pas de descriptions de batailles ou des descriptions de quelques lignes seulement. Nous savons comment l'empereur Dès est mort au combat, mais en quelques lignes seulement, alors que pour les périodes antérieures et postérieures, nous avons des descriptions de batailles qui sont extrêmement précises, en tout cas extrêmement pour l'Antiquité, car évidemment la documentation pour l'Antiquité n'est pas aussi abondante que pour l'époque contemporaine, tout simplement parce que les supports coûtaient très cher.
Alors, entrons, si vous le voulez bien, Yann Le Bouec, dans cette histoire de la crise romaine, qui, encore une fois, est une crise militaire, et nous verrons également cette question de la crise économique. Décrivons, si vous le voulez bien, cette armée romaine. C'est une véritable institution. C'est une institution qui a un haut degré d'efficacité. Comment se caractérise cette excellence de l'armée romaine ?
Mais d'abord, il faudrait rappeler à nos auditeurs que les historiens de l'Antiquité, surtout en France, ne se sont pas du tout occupés des questions militaires. Ça ne les a pas intéressés. Et c'est une véritable découverte que d'étudier l'armée romaine. En 1970, quand je commençais mes recherches, nous étions très peu de chercheurs à travailler là-dessus. Il n'y avait que deux Anglais, Watson et Webster, qui avaient publié une synthèse. Et j'ai publié la première synthèse en français sur l'armée romaine, ce qui pose le problème de ce qu'est l'histoire militaire en fait. La vraie histoire militaire, au sens étroit du terme, c'est l'étude de l'exercice, de la tactique et de la stratégie. Mais cette histoire au sens strict n'a aucun sens, ne peut pas être comprise si on ne la replace pas dans une histoire militaire au sens large, qui elle alors a des implications économiques, sociales, culturelles, religieuses, ce qui est très important pour l'Antiquité. Et donc, cette armée romaine, je pourrais en parler pendant des heures, peut-être même des jours d'ailleurs, je dirais simplement que c'est une armée qui est extrêmement efficace, parce que les soldats ont un très bon entraînement, pratiquent une tactique qui est très élaborée pour l'époque, et obéissent à une stratégie qui est rudimentaire. C'est vrai, on a peut-être un petit peu fantasmé sur la stratégie des Romains, mais ils ont une stratégie, contrairement à ce qu'a dit mon excellent ami Benjamin Isaac, qui est un très grand chercheur israélien, il y a une stratégie de l'armée romaine. Cette stratégie est évidemment très rudimentaire par rapport à celle que nous connaissons au XXIe siècle. Et il n'y a pas de satellite artificiel, pas de photographie aérienne, on ne connaît pas exactement le potentiel économique, démographique de l'ennemi. Les Romains ne connaissent même pas leur potentiel démographique et économique, et de toute façon, les questions économiques ne les intéressent pas. Mais malgré tout, c'est un État extrêmement puissant qui a su se doter d'une armée extrêmement efficace, par son armement, par sa tactique, et aussi parce qu'il y a une certaine logique qui obéit à une stratégie que je qualifie toujours de rudimentaire.
Combien d'hommes ?
Alors ça, les effectifs ont globalement augmenté pendant tout le Haut Empire. Au début de la crise du IIIe siècle, il y a environ 400 000 hommes.
Donc répartis évidemment sur tout le territoire.
Alors ils sont répartis sur tout le territoire, ce qui est évidemment le territoire de l'Empire, qui est un territoire immense, qui va de l'Écosse au Sahara, de l'Atlantique jusqu'à la Mésopotamie. Ça peut faire très peu d'hommes au mètre carré, ou même au mètre, si vous voulez, pour la frontière militaire. Mais en réalité, il faut savoir que quand il y a une bataille dans l'Antiquité, il n'y a jamais plus de 50 à 60 000 hommes sur le terrain. 60 000 hommes, c'est une armée énorme. On ne va pas au-delà, pour une raison qui est technique, qui est très simple, c'est qu'à partir de 50-60 000 hommes, le général qui commande cette armée ne peut plus donner des ordres à l'ensemble de ses soldats parce qu'il n'a pas de moyens de communication et il ne peut pas tous les voir. Et donc, lancer son aile droite dans le brouillard, c'est extrêmement dangereux.
Alors, que représente cette armée dans l'imaginaire romain, puisque l'Empire romain est fondé sur cette puissance militaire ?
C'est un aspect qui a beaucoup évolué et qui est lié au type de recrutement. À l'époque républicaine, il y a un service militaire obligatoire qui est différent de ce qu'il était en France jusqu'en 1962, même dans les années qui ont immédiatement suivi. C'est-à-dire que tout homme doit se présenter, quel que soit son âge d'ailleurs, chaque année, en principe au mois de mars, pour le conseil de révision. Et à ce moment-là, les officiers recrutent, choisissent ceux qui leur paraissent les plus aptes. Ça, c'est le système républicain. Ce recrutement, ce service militaire obligatoire a été maintenu en théorie à l'époque impériale. C'est-à-dire que tous les jeunes... Alors là, c'était seulement les jeunes gens qui se présentaient. Et ceux qui étaient choisis, là, ils en prenaient pour 25 ans. Ils n'avaient plus la possibilité de revenir l'année d'après ou de s'absenter du mois d'octobre au mois de mars. Là, ils étaient soldats 12 mois par an.
L'armée romaine est prestigieuse ?
Elle est prestigieuse pour nous, pour les gens de l'Antiquité. Elle répondait à une nécessité comme d'autres. Et beaucoup de gens ne savaient pas, ne s'y intéressaient pas du tout. Un habitant de Narbonne ou de Carthage avait vu déjà des soldats dans sa vie, passer dans sa ville. Mais l'armée combattante n'était pas vraiment une préoccupation pour ces gens-là.
Il y a, à vous lire, on sent que on pense ce qu'il se passe aujourd'hui. Et ma foi, on se dit qu'il n'y a rien que de très classique dans la perception à la fois de cette armée et dans cette utilisation militaire. On a les mêmes réflexes idéologiques aujourd'hui.
Une grande partie, oui. Effectivement, le commandement de l'armée est un pouvoir régalien. c'est l'empereur qui la commande, restons au Haut Empire si vous le voulez bien, c'est l'empereur qui la commande et qui s'en sert pour défendre l'Empire et au besoin l'accroître si c'est nécessaire, s'il l'estime nécessaire.
Alors, vous accordez une place importante à l'équipement, vous décrivez ce militaire, vous décrivez les différentes hiérarchies et également les stratégies, puisque, vous le dites, il existe des stratégies militaires qui sont élaborées.
Alors, la question de l'équipement est très intéressante et à la fois, je crois, originale dans mon travail,
oui.
Parce qu'il existe à l'heure actuelle un grand nombre de chercheurs qui s'intéressent à l'équipement militaire.
Oui.
Ces chercheurs sont pour l'essentiel des archéologues qui travaillent surtout sur les objets qu'ils trouvent dans les tombes. Ils ont assez souvent négligé d'abord ce que les textes disent, car malgré tout, on peut trouver dans les textes quelques références à l'équipement militaire. Et ensuite, ils ont négligé certains monuments qui sont connus depuis très longtemps. Je pense par exemple, si vous voulez décrire l'armée des Sévères, le plus simple, c'est d'aller voir les deux arcs de Septime Sévère qui sont dans Rome et sur lesquels sont représentés des soldats. Là, on n'a plus aucune hésitation sur le matériel qu'ils avaient, sur le type, la longueur des épées qu'ils avaient, etc. Je pense aussi à un certain nombre de sarcophages italiens sur lesquels sont représentées des scènes de bataille. Qui sont un petit peu nouveaux. Des documents nouvellement étudiés, qui sont connus, bien qu'ils soient connus depuis très longtemps, mais qui n'ont jamais été étudiés du point de vue militaire.
Il existe une uniformité ?
Non, justement, c'est ça qui est étonnant. L'uniformité se crée parce que, de manière par mimétisme, si vous voulez, le voisin utilise tel instrument, je l'utilise aussi, mais les autorités ne l'imposent pas. Supposons qu'un soldat se soit révélé très efficace avec une hache à la main, bien les officiers le laisseront combattre avec une hache à la main. Alors que de nos jours, un soldat, il utilise le fusil qu'on lui donne et il n'a pas le choix.
Oui. Alors ce qui est étonnant, c'est que vous montrez également qu'on assiste à une véritable machine. D'ailleurs, vous utilisez l'expression « la machine de guerre ». C'est une machine et donc c'est un vaste marché, une logistique énorme avec des logiques économiques.
Oui, une de mes distinguées collègues, ils le sont tous, elle particulièrement, avait calculé que l'armée romaine représentait environ 90% du budget de l'État. Alors on peut chinoiser, dire 85 ou 92, mais ça nous donne une idée très juste de ce que ça représentait. Autrement dit, tous les impôts passaient pratiquement aux dépenses militaires.
Quelle est la particularité de cette armée romaine sous les Sévères ? Donc passons, si vous le voulez bien, à la chronologie. Existe-t-il une évolution notable de cette armée ?
C'est une armée qui est très rarement réformée, parce que la mentalité du réformateur est contraire à ce que les gens de l'Antiquité appréciaient. Le réformateur, c'est le révolutionnaire, et les choses nouvelles pour l'Antiquité, pour les gens de l'Antiquité, sont abominables. Donc, en fait, si vous voulez, nous avons deux grands réformateurs qui ont été l'empereur Auguste, le fondateur de l'Empire, entre 31-27 avant Jésus-Christ, 14 après Jésus-Christ, et puis Septime Sévère, qui a introduit un certain nombre de réformes, mais relativement modérées, et évidemment, en ne les présentant jamais comme des réformes, en disant simplement ce sont des ajustements, on ne fait rien de révolutionnaire. Et puis, il y a entre les deux un certain nombre d'évolutions lentes qui se sont imposées d'elles-mêmes sans qu'il y ait de loi, sans qu'il y ait de décision de l'État, en particulier la question du recrutement. À l'époque d'Auguste, le légionnaire, c'était un Italien, essentiellement. Petit à petit, on s'est mis à recruter, l'État s'est mis à recruter des provinciaux. Et puis finalement, d'abord des grandes villes de la province. Par exemple, en Afrique, si vous voulez, on recrutait des Carthaginois d'abord, c'était l'élite sociale. Je suis tout à fait d'accord d'ailleurs, parce que je suis né à Carthage. On recrutait des Carthaginois d'abord. Et puis petit à petit, on s'est mis à recruter des gens de villes de l'intérieur. Et finalement, à l'époque d'Auguste, à l'époque de Septime Sévère, pardon, il y a une petite moyenne de soldats qui sont recrutés tout près du camp.
Si vous le voulez bien, Yann Le Boeck, nous allons voir maintenant qui était en face de cet empire romain, quels étaient les ennemis de l'extérieur. C'est ce que nous allons voir dans un instant.
Bernard Buffet est de ces peintres qui ont connu très jeune un succès fulgurant, puis ont été boudés par la critique. Il a été reconnu à juste titre comme un peintre majeur du XXe siècle par l'Académie des Beaux-Arts, et élu membre dans la section peinture en 1974. Écoutez notre émission en compagnie de l'historienne de l'art Lydia Arambourg, réalisée dans la galerie Maurice Garnier. L'émission Bernard Buffet, peintre de la solitude, est en libre écoute et libre téléchargement sur canalacademy.com.
Nous entamons la deuxième partie de cette émission consacrée à l'armée romaine et une armée romaine dans la tourmente, puisque nous nous arrêtons sur la crise du IIIe siècle de cette armée, une crise militaire. Je reçois Yann Le Boeck, spécialiste d'histoire de l'Antiquité et auteur d'un livre, L'armée romaine dans la tourmente, paru dans la collection L'art de la guerre aux éditions du Rocher. Nous avons présenter Yann Le Boeck de manière succincte cette armée romaine, ce qu'elle représentait à l'époque, puisqu'il s'agit de crise au IIIe siècle. Venons-en aux ennemis et à ses ennemis, notamment de l'extérieur. Vous vous arrêtez très longuement sur ces différents ennemis qui sont multiples et on n'imagine pas qu'au fond, l'Empire est soumis constamment à une pression, extérieure.
C'est quelque chose qui est assez étonnant. C'est que tout le monde est d'accord pour dire que la crise du IIIe siècle est une crise militaire, fondamentalement. Et tout le monde est d'accord, était d'accord pour ne pas parler de l'armée romaine, ou pour en parler très, très brièvement. Je pourrais vous citer beaucoup de livres sur la crise du IIIe siècle qui font l'impasse sur l'armée romaine. Et même ceux qui en parlent brièvement oublient totalement qu'il y a eu des ennemis. Or, si on veut faire de l'histoire militaire, il est indispensable d'étudier qui étaient les ennemis et surtout comment ils se battaient, comment ils combattaient, et plus encore, pourquoi ces ennemis au 1er et 2e siècle n'étaient pas dangereux et pourquoi au 3e siècle ils sont dangereux.
Alors vous commencez par les Germains.
Je commence par les Germains parce que, à mon avis, ce sont les plus dangereux. Il y a les Germains qui étaient traditionnellement installés près de l'Empire, qui se sont constitués en ligue. Les Francs, les Alamans. Francs et Alamans, le mot apparaît au cours du IIIe siècle. Les ligues se sont constituées probablement au début, mais le mot apparaît relativement tardivement, vers le milieu du IIIe siècle. Ce ne sont pas des nouveaux venus, ce sont des barbares qui étaient installés depuis très longtemps près de la frontière, mais qui n'étaient pas dangereux jusque-là, et qui au IIIe siècle deviennent, notamment parce qu'ils ont su constituer ces ligues. Et puis, les Alamans sont peut-être plus dangereux que les Francs. Finalement, à la réflexion, je ne sais pas trop. Peut-être les Alamans quand même. Mais les pires de tous, ce sont les Goths. Alors eux, ce sont des gens qui sont arrivés au cours du IIIe siècle. Les Romains, d'ailleurs, ne s'en sont pas rendus compte. Au début, ils les appellent les Gètes, les Scythes. Ils les confondent avec d'autres peuples qui étaient proches de l'Empire et avec qui ils avaient eu quelques problèmes militaires.
Comment expliquer cette poussée germanique ?
Il est clair que pendant des siècles, les Germains ont toujours souhaité mener des raids pour le pillage. Raids pour le pillage, c'est-à-dire donc ils entrent dans l'Empire, ils pillent et puis ils retournent chez eux. Ces raids étaient relativement rares. Quand ils avaient lieu, les Romains envoyaient des troupes sur le territoire du peuple agresseur et provoquaient un grand massacre. Ce qui fait que les Germains ne recherchaient pas trop ce genre de contact. Au cours du IIIe siècle, il se constitue ces ligues qui permettent d'avoir des effectifs plus importants et il est certain qu'il y a une évolution de la tactique et même en un certain sens au moins un embryon de stratégie chez ces barbares.
Est-ce qu'on peut parler d'une poussée plus à l'est qui en fait a amené ces peuples à migrer eux-mêmes vers l'ouest ?
C'est une des hypothèses qui a été avancée pendant très longtemps. On imagine que les Huns se sont mis en mouvement en Chine, en se déplaçant vers l'ouest, qu'ils ont poussé devant eux des peuples, qui en ont poussé d'autres. Puis finalement, les peuples germains, qui étaient contre la frontière militaire de l'Empire, se sont trouvés coincés entre ces peuples bousculés par les Huns de très loin et l'Empire. C'est le jeu des boules de billard, si vous voulez.
Oui, oui.
À mon avis, cette hypothèse n'est pas suffisamment prouvée parce qu'il faudrait établir une chronologie plus stricte, montrer que de camp à camp, il y a mouvement des Huns, de camp à camp se suivent les mouvements des autres peuples, on n'en sait rien. Ce qui est sûr, c'est que ces peuples ont connu un accroissement démographique pour une raison X ou Y, une amélioration du climat, une amélioration des moyens de production économique, etc. Et puis surtout, ils avaient en face d'eux un empire qui était extrêmement attirant, qui était très riche, très prospère, et où le moindre pillage était quelque chose de très agréable et qui rapportait beaucoup.
Autre ennemi, l'Iran, Alors, on ne parlait pas de l'Iran à l'époque, on parlait des Perses. Que représente cet ennemi? Est-ce qu'on observe les mêmes processus stratégiques, les mêmes processus politiques qu'en Germanie?
Alors, ces deux types de peuples, germains et iraniens, étaient perçus par les Romains comme des peuples très dangereux parce qu'ils avaient le souvenir de désastres épouvantables, notamment la grande bataille d'Orange en 105 avant Jésus-Christ contre les Germains, l'invasion des Cimbres et des Teutons à l'extrême fin du IIe siècle, qui a été arrêtée par les batailles d'Aix et Verseilles en 102 et 101 avant Jésus-Christ. Donc il y avait l'horreur de ces Germains, des grands guerriers, dans l'imaginaire collectif des Romains, des grands guerriers blonds aux yeux bleus, ce qui les étonnait beaucoup. Quand je dis grand guerrier blond aux yeux bleus, ce n'est pas du racisme vulgaire. Vous trouverez l'expression dans César et dans Tacite, et qui nous rapportent qu'ils ont été effrayés par ces gens-là. Mais en réalité, c'était des ennemis qui n'étaient pas très difficiles à vaincre. Parce qu'ils avaient une façon de se battre qui était terrifiante, mais en réalité, ils n'avaient aucune tactique. Et quand un général romain assez froid réussissait à calmer ses troupes et à se battre contre eux, il remportait la victoire à tous les coups. Et en Iran, c'est la même chose. Contre les Iraniens, c'est la même chose. Alors avec le souvenir, un autre souvenir épouvantable, celui de la bataille de Karaeh où Crassus a été détruit. Mais en fait, chaque fois qu'il y a une grande défaite de l'armée romaine, que nous pouvons connaître la bataille du Teutobourg contre les Germains en 9 après Jésus-Christ, qui était aussi très effrayante, ou la bataille de Karaeh, nous pouvons être sûrs qu'à chaque fois, il y a eu une énorme faute du commandement, du haut commandement. Ces défaites n'auraient jamais dû avoir lieu. Et donc, les Iraniens, au 1er et 2e siècle de notre ère, 1er avant, 1er après, 2e siècle, ne sont pas des ennemis en fait dangereux. Il suffit que les généraux romains prennent leurs précautions, ne fassent pas n'importe quoi, et ils réussissent à les vaincre sans difficulté. Au cours du IIIe siècle, il y a quelque chose de nouveau qui est la mise sur pied d'une nouvelle armée, et qui est une armée qui est terriblement efficace, l'armée des Iraniens. Alors, il est difficile de dire en quoi, mais tout de même, on a des moyens. C'est comme les Germains. Connaître les Germains, connaître les Iraniens, c'est pour nous, historiens du XXIe siècle, le même problème. Il y a une séparation, malheureusement, entre les spécialistes de ces régions et les spécialistes de l'Empire romain. Or, nous avons sur les Iraniens des documents extrêmement intéressants, toute une série de bas-reliefs, des monnaies, des textes aussi. Et en essayant de réfléchir un petit peu sur ces documents, on arrive à comprendre que les Iraniens ont réussi au cours du IIIe siècle à mettre sur pied une armée qui était beaucoup plus dangereuse, qui est beaucoup plus efficace, qui est beaucoup plus nombreuse, avec une infanterie, ce qui n'existait pas auparavant. L'armée iranienne était une armée purement de cavaliers. Les cavaliers contre les fantassins lourds que sont les légionnaires romains, ça n'est pas efficace. Cette armée, qui est probablement une armée permanente, avec beaucoup d'infanterie, ils ont réussi à mettre au point une polyorcétique qui est extrêmement efficace, l'art de prendre les villes, l'art de les défendre aussi. Et au cours du IVe siècle encore, dans le livre auquel vous faisiez allusion tout à l'heure, on voit la terrible efficacité pour les sièges de l'armée iranienne.
Donc en face d'un empire romain organisé, on a des ennemis qui s'organisent eux-mêmes.
À leur tour. Sauf l'Iran, qui a toujours été un grand État. Dans le monde de l'Antiquité, la Chine est trop loin, l'Inde aussi. Il n'y a pas de rapport réel. Bien entendu, on a trouvé de la céramique romaine jusqu'en Chine, etc., mais les rapports ne sont pas étroits et il n'y a aucun risque de conflit entre l'Empire romain d'une part, l'Inde ou la Chine d'autre part. Mais l'Iran, c'est le seul grand empire qui est une frontière commune avec l'Empire romain.
Est-ce que, au même titre que la crise militaire donc de l'Empire romain au IIIe siècle est liée à une crise économique, est-ce que en face, ces ennemis qui s'organisent, eux, entrent dans une certaine prospérité économique, notamment sur la base d'une forte démographie?
Nous n'avons pas de statistiques pour la démographie, qu'elle soit à l'intérieur de l'Empire romain ou dans ses États. On a simplement des impressions. Effectivement, nous avons l'impression que l'Iran a une démographie assez importante à cette époque-là, que les Germains aussi ont une démographie importante. Et alors pour les Germains, cette démographie est accrue par le fait qu'il y a des peuples qui arrivent, de nouveaux peuples qui arrivent contre l'Empire.
Bon, il y a d'autres ennemis. Hein. Je renvoie nos auditeurs à votre ouvrage, les ennemis, ce que vous appelez les ennemis mineurs, les ennemis non germains sur le Danube, les autres Germains, parce que il y en avait d'autres. J'en viens tout de suite à ce que vous appelez l'ennemi invisible, qui est, et là nous entrons dans une polémique historiographique, qui n'est autre que la crise économique. Vous le disiez en début d'émission, alors que beaucoup d'historiens ne voyaient qu'une crise, c'est-à-dire chez les chrétiens ou chez les juifs, eh bien, vous distinguez une crise économique qui sera liée donc à cette crise militaire. Comment se caractérise cette crise économique ?
Alors, elle peut être mesurée très facilement, mais il faut remonter assez haut à l'époque d'Auguste, si vous voulez, pour étudier ce que les économistes modernes appellent la conjoncture, c'est-à-dire l'évolution des prix et des salaires. Nous savons tous, et surtout en 2009, tout le monde est au courant, que quand il y a une inflation modérée, c'est en général un signe de bonne santé de l'économie. Quand l'inflation s'accélère ou qu'il y a une déflation, au contraire, c'est un signe de mauvaise santé de l'économie. Alors nous constatons que pendant 2 siècles, depuis l'époque d'Auguste jusqu'à l'époque de Septime Sévère, l'Empire romain connaît une inflation constante mais modérée. C'est-à-dire que ça se mesure de manière très simple par le poids des pièces de monnaie que l'État met en circulation et par le titre de ces pièces de monnaie. Hein, donc Auguste crée une monnaie d'or qui a plus de 90% de titres, une monnaie d'argent également plus de 90% de titres, et puis petit à petit, le titre diminue, mais très très légèrement pendant 2 siècles. Et à partir du début du 3e siècle, le poids des monnaies dégringole et le titre dégringole également, avec le fond de la crise qui est à l'époque de l'empereur Galien, 260-268, un très bon ami que j'aime beaucoup, qui a déjà lu le livre et qui m'a écrit que j'avais été très méchant avec Galien.
Je confirme.
Vous confirmez, oh, j'en suis navré. Voilà, donc à l'époque de Galien, le pauvre Galien n'y était pour rien. Hein. Il y a cette crise qui est très grave. Alors pourquoi est-ce que c'est un ennemi invisible ? Parce que les gens de l'Antiquité n'ont pas étudié l'économie. Ils ne comprennent pas ce qui se passe et ils n'y réfléchissent même pas. Et la question de l'inflation ne les préoccupe pas du tout. Quand un empereur décide d'augmenter le salaire des soldats de 50%, rappelez-vous que 90% du budget de l'État est destiné à l'armée, quand l'empereur augmente les salaires de 50%, c'est une énorme augmentation du budget de l'État. Alors, l'empereur décide d'augmenter ce budget. Comment ça se passera ? Il s'en fiche, ce n'est pas son problème. Les questions financières, ce n'est pas un problème régalien. Il convoque son procurateur, qui est chargé des finances, quelques hauts fonctionnaires, et puis il leur dit, bon, ben, à partir de maintenant, les salaires augmentent, sont à temps. Les autres vont lui dire, mais où trouvons-nous l'argent ? Et l'empereur leur répond, mais ce n'est pas mon problème. En fait, ils ne posent pas cette question à l'empereur parce qu'ils savent ce que l'empereur va leur répondre. Donc ils se grattent la tête, qu'est-ce qu'ils font ? Ils augmentent les impôts. Ce qui provoque des révoltes d'ailleurs, la révolte des Africains en 238, et puis il modifie le titre de la monnaie.
Vous présentez un tableau des salaires annuels en sesterces hein, des soldats, c'est vraiment frappant au niveau, je voudrais bien avoir une augmentation de salaire de ce niveau, il y a une réelle évolution.
Vous seriez perdant, parce que ces augmentations de salaire sont très très fortes, mais elles sont très très rares. En termes d'économie, on dirait que l'État romain est un très mauvais patron. Parce qu'ils ne pensent pas à augmenter les salaires. Les soldats ne pensent pas réclamer d'ailleurs d'augmentation de salaire. Hein. Ils ne sont pas du tout dans cet esprit, n'ont pas cet esprit. Songez que quand même que pendant un bon siècle, les salaires n'ont pas changé au 1er siècle, entre Auguste et Domitien. Entre Domitien et Septime Sévère, pendant encore un siècle, ils n'ont pas bougé. Alors c'est vous dire, hein, donc si vous commencez votre carrière en 20 après Jésus-Christ, aucune augmentation de salaire dans toute votre existence. Et même chose si vous la commencez en 120 après Jésus-Christ, vous voyez votre salaire immobile pendant toute votre carrière.
Alors il y a dans ces ennemis de l'intérêt, en dehors de cet ennemi invisible qu'est la crise économique, il y a des forces qui tentent à déstabiliser l'Empire romain, ce sont les forces de l'intérieur. On peut parler à l'époque de séparatisme, au même titre qu'il existe des séparatismes dans le défunt empire soviétique ou dans l'histoire ?
Je crois qu'il faut se garder de l'anachronisme. La situation est totalement différente. En gros, il y a deux mouvements séparatistes qui sont l'Empire gaulois et l'Empire palmyrénien, qui a beaucoup fait rêver à cause de la belle Zénobie. Ces deux mouvements n'ont rien à voir avec celui que vous évoquez, qui a suivi la mort de l'Union soviétique. L'Empire gaulois a été organisé et voulu par des généraux qui sont des sénateurs de très haut rang. Un sénateur de très haut rang qui est Postumus. L'objectif de Postumus était de prendre la tête de l'Empire, de prendre tout l'Empire. Faute de prendre tout l'Empire, il s'est contenté de l'Occident. Le mouvement palmyrénien était un petit peu différent. Il y a des mots allemands qui s'appliquent à ces deux cas. Le mouvement palmyrénien était un petit peu différent. Au début, les palmyréniens se sont totalement intégrés dans la tradition romaine. Et puis, petit à petit, ils ont évolué vers un peu plus d'indépendance que les Occidentaux. Et apparemment, Zénobie n'a jamais pensé à être impératrice de Rome. Elle se serait contentée de régner sur une grande partie de l'Orient, tranquillement, avec ou sans la bénédiction de l'empereur de Rome.
Yann Le Boëc, nous nous retrouvons dans un instant. Nous entamons la dernière partie de cette émission consacrée à la crise du IIIe siècle dans l'Empire romain, une crise militaire, une crise économique. Je reçois Yann Le Boëc, auteur du livre « L'armée romaine dans la tourmente », un livre paru dans la collection « L'art de la guerre » aux éditions du Rocher, avec d'ailleurs une couverture magnifique qui représente, alors il y a deux représentations, la lionne mourante qui se traîne sur les pattes postérieures dans un ultime allaitement de vie, et il y a une autre représentation, le sarcophage de Ludovisi, qui est à Rome, au musée des Thermes. Que représente ce sarcophage ?
Il représente un combat entre les Romains et les barbares. La lionne, c'est le symbole, de l'emblème de la collection. Ça n'a aucun rapport avec la crise du IIIe siècle. Le sarcophage Ludovisi, oui, a un rapport avec la crise du IIIe siècle. Donc, c'est un de ces sarcophages dont je vous ai parlé précédemment qui représente des scènes de bataille entre des Romains et des barbares. Le personnage pour lequel a été sculpté ce sarcophage avait certainement été un officier supérieur qui a mené des troupes contre les barbares et qui a massacré un certain nombre de barbares, en l'occurrence des Germains.
Les barbares sont parfois nus, nous ne l'avons pas dit tout à l'heure, mais les Germains se battent parfois nus ou avec des peintures, la peinture bleue.
Non, blanche. Les Germains, c'est blanc. Le bleu, c'est les Écossais.
Les Écossais,
oui. Les Pictis. Oui, nous avons dit précédemment que justement, les Germains avaient une façon de combattre qui déroutait complètement les Romains. C'est-à-dire d'abord qu'ils ne se rangeaient pas comme les Romains suivant la triplex acies, c'est-à-dire sur trois lignes de guerriers. Et les Romains étaient isolés les uns des autres. Chaque soldat avait son espace pour pratiquer l'escrime et il était au sein d'une petite unité qu'on appelait la cohorte, qui elle-même était séparée des autres cohortes, alors que les barbares, les Germains, étaient alignés en phalange. Donc déjà, il y avait cette première différence. La phalange, donc, c'est un mur de soldats, les uns à côté des autres, très proches les uns des autres, sans séparation. Déjà, c'est une première chose. Ensuite, il y avait toute une série il y avait l'aspect extérieur que nous avons évoqué tout à l'heure, ces grands barbares blonds aux yeux bleus qui effrayaient les Romains. Il y a dans César, d'ailleurs, c'est de siècles avant, mais une petite anecdote assez amusante que je traduisais récemment, dans laquelle ce sont des Gaulois, grands, blonds et aux yeux bleus aussi, se moquent des Romains qui viennent de construire une tour mobile pour prendre leur ville d'assaut, qui disent « mais comment des petits nains comme ça vont déplacer cette tour et nous vaincre, nous qui sommes si grands ?» Puis évidemment, bon, vous savez que les Romains ont fini par gagner la guerre des Gaules. Et c'était la même chose avec les Germains qui avaient ce sentiment de supériorité. Puis, avant la bataille, les Germains avaient toute une série de rites qui surprenaient les Romains, pendant la bataille aussi d'ailleurs. Avant la bataille, ils dansaient, il y avait certains d'entre eux au moins, il y avait une sorte de danse de guerre. Deux pas en avant, un saut, deux pas en avant, un saut. Je dis souvent à mes étudiants, quand j'aborde ces questions, vous ferez ça quand vous irez en boîte le samedi soir, vous aurez un certain succès. ils chantaient, ils avaient un chant de guerre qu'on appelle le baritus en latin, et dont on a fait le bardi dans une œuvre littéraire française bien connue. Donc il y a le baritus, ce chant de guerre, qui surprenait aussi beaucoup les Romains, et puis un certain nombre d'éléments, notamment justement les Germains, certains d'entre eux se peignaient le corps en blanc avant la bataille. Or, à mon avis, ça a deux significations. La première, c'est que quand il y a une ou plusieurs blessures, ce qui est encore mieux, ça fait ressortir le sang et ça montre le courage du personnage. Un homme qui, vous savez, quand vous avez 10 cm de fer dans le bras ou dans la cuisse, vous n'avez plus tellement d'agressivité. Mais un homme qui, avec 3, 4 blessures, des flèches, des coups d'épée, etc., continue à se battre, c'est quelqu'un qui fait peur parce qu'il est vraiment extrêmement courageux. Puis il y a une autre explication, à mon avis, à cette couleur blanche, comme au bleu d'ailleurs des Écossais, c'est une pratique magique. C'est une couleur et un enduit qui donnait un pouvoir magique à celui qui en était revêtu. Et puis, ces gens entraient dans la bataille et certains d'entre eux, en plein milieu du combat, se mettaient tout nus, déposaient toutes leurs armes défensives, leur cuirasse quand ils en avaient une, leur casque, et entraient dans la bataille entièrement nus. C'est extrêmement déstabilisant pour un soldat qui est habitué à un combat beaucoup plus régulier.
Alors, venons-en justement à cette crise de l'armée romaine, donc au cours du IIIe siècle. Et là encore, vous n'épargnez pas ce cher Galien, puisque alors que Galien est généralement associé à une réforme de l'armée romaine, là, visiblement, vous le sortez de cette réforme et vous montrez qu'au contraire, ces réformes n'ont pas existé ou elles représentent peu par rapport à cette crise qui va marquer l'Empire romain.
Oui, en fait, Galien est un empereur qui n'a pas eu de chance. Il s'est trouvé au mauvais moment, au mauvais endroit. Il s'est trouvé à la tête de l'Empire alors que la situation était désastreuse, que l'Empire était attaqué à la fois par tous les Germains, les Francs, les Alamans, les Goths, et aussi par les Iraniens. En même temps éclataient des séparatismes, l'Occident passait dans l'Empire gaulois pour mieux résister aux Germains, l'Orient passait sous l'autorité de Palmyre pour mieux résister aux Orientaux. Donc il s'est trouvé dans une situation qui est dramatique. Il a essayé de faire ce qu'il a pu. Je veux, de ce point de vue-là, le réhabiliter ici. Mais il n'a pas fait toutes les réformes qu'on lui a prêtées. Et en particulier, on lui a prêté le mérite d'avoir créé une armée mobile. Et ça, c'est un fantasme, c'est un mythe d'historiens contemporains qui n'ont jamais réfléchi à ce qu'est l'histoire militaire. Une armée mobile, c'est comme une armée immobile, ça n'a aucun sens. Une armée est mobile quand il faut qu'elle le soit, et elle est immobile quand les soldats ne tournent pas 24 heures sur 24 et ne se déplacent pas quand il n'y a pas d'ennemis. Donc ça n'a aucun sens. Et on a attribué à Galien ce mérite parce qu'il a, à un moment donné, rassemblé une grande armée dans la plaine du Pô. Et on a dit, ben voilà, c'est la fameuse armée mobile que tous les historiens du XXe siècle appelaient de leur rêve, dans leur fantasme. Il a créé l'armée mobile. Pas du tout. Il a fait ce qu'aurait fait n'importe quel empereur. Quand il doit y avoir une grande guerre, il voulait se battre contre les Alamans, qui étaient dans l'angle créé par le cours supérieur du Rhin et du Danube, ce qu'on appelait les champs des Cumates, le pays de Bade-Wurtemberg, lesquels Alamans pillaient avec une grande équité tantôt l'Alsace, tantôt la Suisse. Et comme ils avaient épuisé les richesses de l'Alsace et les richesses de la Suisse, ils commençaient à piller l'Italie du Nord. Ce que devait faire Galien, la moindre des choses, c'est de barrer la route aux Alamans. Et pour barrer la route à des ennemis qui sont des ennemis très combatifs, très agressifs, qui connaissent bien la guerre, il faut rassembler une grande armée. Il a rassemblé une grande armée.
C'est la première fois que l'Italie est touchée ?
Depuis le temps des Cimbres et des Teutons, oui.
Alors, il y a d'autres mythes, hein. Vous en retenez trois. Et tout d'abord, donc, ce mythe de l'armée mobile, mais il y a également le mythe de la cavalerie.
Oui, le mythe de la cavalerie, c'est que vient d'une mauvaise compréhension des historiens du XXe siècle qui s'expliquent parce qu'ils n'ont jamais voulu réfléchir à l'histoire militaire et ont donné des réponses aussi apparemment logiques. Que se passe-t-il au cours du IIIe siècle ? Il y a un certain nombre de raids, des Francs et des Alamans, à l'intérieur du territoire de la Gaule. Des raids qui peuvent aller très loin, jusqu'à Clermont-Ferrand ou Tarragone en Espagne. Alors, les historiens du XXe siècle se sont dit, s'il y a des raids qui vont aussi loin, c'est parce que les barbares ont percé la frontière militaire, ce qu'on appelle à tort le limès, et puis ils sont allés à cheval très loin et ils sont revenus à cheval très vite. Alors, c'est un mythe, d'abord parce que les Alamans ne sont pas des cavaliers, ce sont des fantassins. Et ensuite, parce que ce qu'ils font dans ces raids, c'est du pillage. Et le pillage vise à s'emparer des humains, des animaux et de l'argent liquide, de tous les objets qu'on peut avoir. Alors évidemment, vous pouvez prendre une bourse et la mettre dans votre ceinture, accrocher un vase sur votre dos dans un sac, mais les esclaves et les bœufs, vous ne pouvez pas les monter sur des chevaux et les faire courir. Donc c'est complètement absurde. Ces raids sont des raids de fantassins, point, et c'est tout. Et pour lutter contre des fantassins, il faut des fantassins. Et donc, imaginez que l'armée romaine ait eu besoin de cavaliers, c'est complètement absurde. Au IVe siècle encore, pardon, excusez-moi, encore une chose, un argument qui est fondamental, c'est au IVe siècle encore, l'armée romaine est une armée d'infanterie lourde, les Germains, Alamans, Francs, Goths sont des fantassins lourds.
Le dernier mythe, c'est le mythe de l'édit de 262, qui est un édit qui était censé favoriser les chevaliers au détriment des officiers sénatoriaux.
Alors oui, c'est là où je vais me faire le plus attaquer, j'en suis certain. Je ne crois pas à cet édit. Pour la bonne raison que donc, nous avons un seul texte qui nous dit qu'en 262, l'empereur Galien décide que les camps sont fermés aux sénateurs. Il n'y a que ce texte, on n'a pas d'autres preuves de cet édit. Et en réalité, ce qu'on constate, c'est que depuis assez longtemps, il y a de moins en moins de sénateurs qui vont à l'armée, alors que les chevaliers, étant beaucoup plus nombreux, peuvent occuper les postes. Alors, la disparition des sénateurs s'explique par plusieurs raisons, probablement. D'abord parce qu'eux-mêmes ont moins envie d'aller au combat. Quand il y a une défaite militaire, si l'empereur est tué, vous pouvez être sûr que tous les cadres sénatoriaux subissent une partie de cette défaite. Il y a aussi, donc ils essaient d'éviter le service militaire, il y a aussi la volonté de l'État, et ça je crois que c'est un petit peu nouveau dans mon livre, de maintenir moins de postes sénatoriaux. Pour deux raisons. Une politique, c'est que les sénateurs tentent des coups d'État. Ce qui s'est passé dans l'Empire des Gaules, c'est un coup d'État sénatorial. C'est un sénateur qui est un ancien consul qui prend le pouvoir, d'une part. Et d'autre part, il y a un motif économique. L'échelle des salaires dans l'Antiquité est beaucoup plus large que de nos jours. Et avec le salaire d'un officier sénatorial, on peut recruter 500 ou 600 fantassins. Ce qui fait qu'en supprimant ces postes de sénateurs, d'une part, on limite les risques de coup d'État. Et d'autre part, l'État récupère beaucoup d'argent.
Alors, nous le disions tout à l'heure, toute situation de crise est suivie normalement d'une renaissance et ce sera le cas. Nous ne parlons pas de la fin de l'Empire romain ici, mais bien d'une renaissance qui a lieu et sur une période très courte, puisque vous donnez les dates de 275-284. Comment se caractérise cette renaissance, rétablissement ?
C'est un rétablissement qui est très lent. Et qui, à mon avis, s'explique en grande partie pour des questions d'armement, d'équipement militaire, d'une part. Et d'autre part, vous savez, c'est toujours la même chose. Quand il y a une guerre, il y a deux parties. Il y a ceux qui attaquent et ceux qui sont attaqués. Donc les agresseurs, après 50 ans de victoire, de pillage et de guerre, sont un peu fatigués, se battent entre eux d'ailleurs. Il y a de nouveaux arrivants qui veulent prendre les places qu'occupent les peuples anciennement installés. Et les Romains ont fini par comprendre qu'ils devaient adapter leur armement d'abord à la qualité de leurs troupes, qui s'est dégradée certainement, puisqu'on peut moins les payer, on ne les paie pas, forcément ce sont de moins bons soldats. Et puis ils ont fini par comprendre que donc, ces soldats moins bien payés, plus médiocres, ont besoin de nouvelles armes. Mais changer l'armement, c'est une révolution. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les révolutions, tout ce qui est nouveau, c'est mauvais. On cherche à l'éviter. Malgré tout, ça a fini par s'imposer, peut-être dans la pratique, tout simplement. Les soldats se sont dit, tiens, les épées longues, c'est quand même plus pratique pour nous que les épées courtes, puisqu'ils ne savaient plus bien pratiquer l'escrime. Peut-être que la grande lance, c'est plus pratique que le javelot, ça nous permet de nous protéger au moment du corps à corps. Il y a ces innovations dans l'armement qu'on peut constater, enfin j'ai essayé de le montrer, j'espère convaincre mes lecteurs, ces innovations, mais qui arrivent avec beaucoup de retard. Les premiers chocs avec les barbares se placent, si vous voulez, dans les années 210-230, avec les Germains notamment, vers 230 pour les Iraniens. Et le nouvel armement n'est pas mis en place avant le milieu du IIIe siècle. Et c'est après 250-260 que cet armement arrive. Donc entre une armée romaine qui est un petit peu plus efficace que ce qu'elle avait été auparavant, et des barbares qui sont un petit peu calmés. Alors en Iran aussi, c'est parce que le souverain est âgé, reste au pouvoir, mais étant âgé et beaucoup moins agressif qu'il n'était quand il était plus jeune.
Donc c'est par une capacité à se réformer que l'Empire a su, non pas renaître de ses cendres parce qu'il n'était pas mort, mais a su évoluer.
Su s'adapter. Oui, par sa capacité à s'adapter, mais aussi par l'affaiblissement des ennemis.
Eh bien, c'est sur ces mots qui peuvent constituer une leçon pour notre époque aujourd'hui que nous allons nous quitter. Merci beaucoup, Yann Le Boeck, d'avoir répondu à notre invitation.
C'est moi qui vous remercie.
Je rappelle deux titres d'ouvrages. L'armée romaine sous le Bas-Empire, c'est un ouvrage qui a été couronné par l'Académie française. Il me semble important de le rappeler. Et dernièrement, aux éditions du Rocher, vient de paraître dans la collection L'Art de la guerre, L'armée romaine dans la tourmente. Une nouvelle approche de la crise du IIIe siècle. Merci beaucoup et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire.
Merci.